Les rêves de Lila.
Bonsoir et bienvenue dans Les rêves de Lila, une émission pour les petits, mais aussi pour les grands nostalgiques de mon époque. Un conte suivi d'une histoire racontée sur un vieux vinyle 45 tours, c'est le concept de cette petite aventure. Attention, c'est parti, on y va. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette quatrième émission des rêves de Lila. Le prochain conte qui va suivre a été imaginé par Astrid Sterrin, romancière parisienne contemporaine, et qui s'intitule « Le dernier enchantement ». Il était une fois une vieille sorcière qui allait perdre ses pouvoirs. Cela l'ennuyait beaucoup. Muguette, c'était ainsi qu'elle s'appelait, avait toujours adoré jeter des sorts, depuis le tout premier. Malheureusement, elle n'avait pas le choix. Les lois de la magie étaient ainsi. Il ne lui restait plus qu'un enchantement en réserve. Et la vieille Muguette se creusait les méninges, incapable de décider ce qu'elle allait en faire. Ce dernier sortilège, elle ne voulait pas l'utiliser n'importe comment, ni sur n'importe qui. Il fallait qu'il compte, qu'il lui laisse un beau souvenir. Muguette se rappelait parfaitement le jour où elle avait lancé son premier sort. Oh oui! Même si sa mémoire commençait à lui jouer des tours depuis quelques années, ce jour-là, elle ne l'oublierait jamais. Il lui suffisait de fermer les yeux pour tout revoir, comme si c'était la veille. Elle était en train de lire, bien sûr. À cette époque-là, déjà, elle lisait tout ce qui lui tombait sous la main. Et une chose l'inquiétait beaucoup, la possibilité que, malgré toutes les heures qu'elle y consacrait, elle ne trouve jamais le temps de lire l'immense quantité de livres que contenait la grande bibliothèque. Elle était en train de lire quand, tout à coup, une grande et belle dame avait surgi près d'elle. Une dame habillée de façon magnifique, comme les fées dans les contes, avec une somptueuse robe bleue brodée d'or et un drôle de chapeau pointu. Et la dame lui avait annoncé cette nouvelle. Merveilleuse et invraisemblable, Muguette était magicienne. C'était la belle dame qui lui avait appris comment se fabriquer une baguette, quelques formules récitées, comment puiser ses pouvoirs au plus profond d'elle-même. Après cela, elle avait disparu. Pour son tout premier sort, la sorcière toute neuve que Muguette était alors, avait rajouté une heure à toutes ses journées. Une heure, rien que pour lire. Au fil des années, d'ailleurs, elle avait continué à se rajouter des heures. Il n'y en avait jamais assez. Alors, vraiment, elle était bien ennuyée de ne plus avoir qu'un seul enchantement en réserve. Comment trouverait-elle assez de temps pour lire sans magie? Elle finit par demander l'avis de son chat, qui, comme d'habitude, ne l'aida pas du tout. Au lieu de lui donner un bon conseil, il l'obligea à utiliser son dernier sort dans les 3 jours suivants. Sinon, ce serait lui qui la changerait en souris. Les chats ayant, comme chacun sait, un talent certain pour semer des souris partout où ils passent. Le premier jour, la vieille Muguette décida de se rendre dans une maison de retraite. Il y avait sûrement là-dedans des gens qu'elle pourrait aider. Des esselés, des malades à soigner, des nostalgiques à remettre de bonne humeur. Pleine de bonne volonté, Muguette passa par la porte de l'établissement en prétendant rendre visite à sa sœur et déambula parmi les résidents. Elle n'aimait pas trop ces endroits qui sentaient le désinfectant et résonnaient de gémissements tristes, mais elle avait envie de faire un effort. En revanche, elle n'arrivait toujours pas à choisir à qui offrir son dernier enchantement. Toutes les personnes de cette maison en auraient eu besoin. Au détour d'un couloir, elle entendit un petit tintement. C'était un bruit qu'elle connaissait bien, le bruit que toutes les sorcières percevaient lorsqu'elles passaient à côté d'une d'entre elles. Curieuse, Muguette s'approcha d'une très vieille dame en robe de chambre rose. Celle-ci lui apprit qu'elle n'avait plus de magie depuis longtemps. Et quand Muguette lui proposa d'utiliser son dernier sort pour apaiser ses douleurs, la très vieille dame lui répondit :
« Oh,
Ne gâchez pas votre magie sur moi. J'en ai assez profité. Allez plutôt rendre service à tous ces jeunes qui s'épuisent à travailler du matin au soir. »
Le deuxième jour, Muguette décida donc d'aller dans les locaux d'une grande entreprise. Elle s'arma de son plus beau plumeau, se fit passer pour une femme de ménage et gravit en ascenseur les innombrables étages d'une tour transparente. Pendant de longues heures, Muguette arpenta les couloirs et visita les bureaux pour trouver une personne à secourir. Pourtant, elle fut déconcertée par tous les employés qui croisèrent son chemin, le pas pressé, l'ordinateur sous le bras et le téléphone collé à l'oreille. Quelques-uns semblaient anxieux, d'autres ambitieux, d'autres encore plaisantaient autour d'un café. Certains auraient sans doute eu besoin de son aide, mais aucun n'avait l'air de vouloir s'en remettre à la magie d'une vieille sorcière. Ce genre de choses, c'était dépassé. Ils avaient la technologie maintenant, les emails, les calls, les meetings, le consulting, les team buildings, les afterworks et les happiness officers. Ce que tout ça pouvait désigner, Muguette, elle n'en avait pas la moindre idée. Mais ce dont elle était sûre, c'est que dans un endroit comme celui-là, personne ne se souviendrait d'elle. Elle quitta donc la grande tour et rentra chez elle, aussi déconfite que son plus vieux fauteuil. Elle ne s'était jamais sentie inutile et démunie comme ces deux derniers jours. Jusqu'à présent, la magie avait rendu sa vie colorée, surprenante et pimpante, pleine de découvertes et de rebondissements rocambolesques. Quand Muguette songeait à ce que serait sa vie, plus tard, sans enchantement, elle en avait presque les larmes aux yeux. Elle avait toujours su, pourtant, que ce moment allait venir. La belle dame, si bien habillée, l'avait prévenue. Le nombre de ses sortilèges serait immense, mais pas infini. Et elle l'avait ressenti, chaque jour depuis celui-là. À chaque filtre qu'elle concoctait, chaque maléfice qu'elle lançait quand ses voisins faisaient trop de bruit, une toute petite parcelle de quelque chose semblait s'échapper d'elle. Après tant d'années, elle devait bien admettre qu'elle se sentait un peu usée. Muguette alla se coucher, si découragée que même son livre préféré n'arriva pas à la dérider. Elle devait utiliser son dernier sort. Le lendemain, sans faute, sous peine de devenir une souris pourchassée par son propre chat. Le troisième jour, ne sachant plus quoi faire, Muguette alla se promener dans le parc à côté de chez elle. Elle grimaça en voyant que des tas d'enfants étaient venus y jouer. Muguette n'aimait pas vraiment les enfants. Ils faisaient trop de bruit. Ils criaient, ils couraient dans tous les sens. Ils dérangeaient les choses et ils tiraient sur la queue de son chat. Muguette hésita à utiliser son dernier maléfice pour transformer leur terrain de jeu en sable mouvant qui les engloutirait. Mais elle se ravisa. Elle n'était pas d'humeur. Avec un soupir, elle se résigna à rentrer chez elle. Tant pis. Elle emploierait son sort à rembourrer son vieux fauteuil. Ce serait toujours ça de pris. Soudain, elle entendit un petit tintement. Un tintement qu'elle connaissait bien. Elle se retourna et découvrit, assis sur un banc, un jeune garçon qui lisait. Non, il ne se contentait pas de lire. Il dévorait son histoire, page après page, le nez tout près des lignes, comme s'il avait envie d'y plonger. En dehors de cela, c'était un garçon tout à fait normal, sauf que c'était lui qui tintait. Alors, la vieille Muguette sourit. Elle savait enfin ce qu'elle avait à faire et comment utiliser son dernier sort. D'un geste plein d'émotion, elle tira de sa poche sa vieille baguette toute noueuse. Avec la dernière magie qui lui restait, elle s'habilla de façon magnifique, comme les fées dans les contes, avec une somptueuse robe violette brodée d'argent et un drôle de chapeau pointu. Le jeune garçon l'aperçut et releva la tête avec stupeur. Le cœur battant, le sourire aux lèvres, Muguette s'avança vers lui, tout heureuse de lui annoncer une nouvelle merveilleuse et invraisemblable. On imagine que Muguette peut-être en fait à son tour un sorcier, libre à vous d'en imaginer la fin, en vous laissant à votre imaginaire. Merci Astrid pour cette histoire originale. Le vinyle qui va suivre, c'est la belle histoire du Petit Poucet, retranscrit et transformé par Charles Perrault, paru dans les contes de ma mère Loy, en 1697 quand même.
Il y a de cela fort longtemps, vivaient à l'orée d'une vaste forêt un bûcheron, sa femme et leurs 7 enfants, tous des garçons. L'aîné allait avoir 10 ans, le plus jeune en avait tout juste 7. Mais il était si petit, si menu, qu'on l'avait surnommé le Petit Poucet. Cependant, malgré sa petite taille, il était bien plus fin, plus avisé, plus intelligent que tous ses frères. Le père, un brave homme dur à la besogne, gagnait à peine de quoi nourrir sa famille. Une année, le travail vint à manquer. Il n'y eut plus d'argent à la maison. Et un soir, après avoir couché les enfants, le bûcheron dit à sa femme:
nos fils n'ont plus rien à manger. Il ne reste même pas un croûton de pain.
Le seigneur du village te doit encore 10 écus. Que pourrait-il te payer?
Il m'en a fait la promesse, mais les promesses, ça ne nourrit point.
Mon Dieu, que vont devenir les petits?
Je n'aurai pas le courage de les voir mourir de faim sous mes yeux. Demain, nous irons les perdre dans la forêt.
Perdre nos enfants dans la forêt? C'est impossible! Je ne te laisserai pas faire.
Tais-toi, femme. Je suis aussi malheureux que toi, mais nous ne pouvons faire autrement. Ma décision est prise.
Le Petit Poucet, qui ne dormait pas, avait tout entendu. Il ne dit rien à ses frères, de peur de les effrayer. Mais, dès que son père eut soufflé la chandelle, il se leva sans bruit pour aller au bord d'un ruisseau où il remplit ses poches de petits cailloux blancs. Le lendemain, le bûcheron et sa femme emmenèrent leurs enfants au cœur de la forêt. Quand ils les virent occupés à ramasser du bois mort, ils s'en allèrent silencieusement, le cœur bien gros et les yeux remplis de larmes. Le plus âgé des frères remarqua le premier leur absence.
« Où sont nos parents, Petit Poucet? Je ne les vois plus. Ils sont partis ?»«
Partis.
Où ça ? » ?»«
Au logis.
En nous abandonnant ici ?»
Nous sommes perdus. Je veux aller à la maison.
Je peux rentrer chez nous.
Je veux voir maman.
Je veux voir maman.
Ne pleurez plus, mes frères. Je vais vous reconduire. Vous voyez ces petits cailloux blancs sur le sentier? C'est moi qui les ai semés. Il n'y a qu'à les suivre pour rentrer au logis. Allez, en route.
Comme il l'avait promis, le Petit Poucet ramena ses frères à la maison. Au moment où ils allaient pousser la porte, ils entendirent la voix de leurs parents.
Le seigneur du village est quand même bien honnête de nous avoir fait porter tout à l'heure nos 10 écus et ce grand panier plein de victuailles. Allons, mange, ma femme.
Je ne pourrai rien avaler. J'ai la gorge trop serrée en pensant à nos pauvres enfants perdus dans la forêt. Allons vite les chercher.
Tu es trop faible pour marcher maintenant. Mange d'abord un morceau. Nous nous mettrons en route ensuite.
Non, partons sur l'heure. J'ai trop peur pour eux. Les loups les ont peut-être dévorés. Mes enfants, mes pauvres enfants, où êtes-vous?
Nous voilà, maman!
Oh, mes petits, comme je suis heureuse de vous revoir.
Moi aussi, je suis bien content. Surtout que nous avons là de quoi vous régaler d'un bon repas.
Tant mieux! Mes frères et moi, nous avons très faim.
Et l'émotion, ça creuse.
Alors à table, et que chacun mange tout ce qu'il veut. Ce soir, il y en a pour tout le monde.
Hélas, bientôt la famine revint, obligeant le bûcheron et sa femme, accablés de chagrin, à se séparer de leurs enfants, qu'ils conduisirent au plus profond de la forêt, en un lieu si éloigné que nul ne s'y était jamais aventuré. Ce jour-là, le Petit Poucet n'avait en poche qu'un gros morceau de pain, dont il fit des miettes qu'il jeta derrière lui en pensant qu'elles remplaceraient les petits cailloux blancs. mais les oiseaux mangèrent les miettes. Il ne put retrouver son chemin. Les garçons étaient bien affligés. Comme la nuit tombait, le petit Poucet grimpa à un arbre et aperçut au loin une maison où brillait une lumière. Il y conduisit ses frères et heurta à la porte.
Qui là ?
Nous nous sommes perdus dans la forêt. Ouvrez-nous par charité, madame.
Voilà. Oh, mes pauvres enfants, vous êtes tout trempés, tout tremblants de froid.
Pouvons-nous entrer, madame ?
Vous ne savez donc pas où vous êtes ? Ici, c'est la maison de l'ogre qui mange les petits-enfants. Sauvez-vous vite, avant qu'il n'arrive.
Si nous restons dans la forêt, les loups nous mangeront. Il vaut mieux que ce soit monsieur votre mari qui nous mange. Et peut-être qu'il aurait pitié de nous si vous vouliez bien l'en prier.
Un ogre n'a pitié de personne. Mais entrez, mes enfants, je vais essayer de vous cacher. Fermez la porte et chauffez-vous devant la cheminée.
Oh ! Il y a un mouton tout entier qui rôtit à la branche.
C'est pour le souper de l'ogre. Il n'en fera qu'une bouchée.
Ogre, ouvre-moi la porte.
Mon Dieu, le voilà. Cachez-vous vite sous le lit et surtout, ne bougez pas.
Apporte-moi un pichet de vin frais, femme, et sers-moi à souper. J'ai grand faim.
Tout est prêt. Le mouton est cuit à point.
C'est bien, femme. Mais on dirait que ça sent la viande fraîche ici.
C'est le veau que vous mangerez demain à votre dîner.
Ça sent la viande fraîche, te dis-je. Tiens, qu'y a-t-il donc sous ce lit ? Par ma barbe ! Sept petits garçons !
Excusez-nous si nous partons, monsieur l'ogre, mais nos parents nous attendent.
Pas si vite, chérubin. Femme, va donc me chercher mon grand couteau.
Qu'allez-vous faire alors qu'il est ? N'aurez-vous pas assez de temps demain ?
Tais-toi, femme, et obéis !
Mais vous avez encore ici un veau, deux moutons et la moitié d'un cochon.
Par ma foi, tu as raison, femme. Donne-leur bien à souper afin qu'ils ne maigrissent point. Et va les mener coucher. Je m'occuperai d'eux plus tard.
L'ogre avait sept filles, de l'âge du petit Poucet et de ses frères. Elles avaient de gros yeux ronds, le nez crochu, la bouche fort grande et des dents très aiguës. Dans leur chambre, à côté du grand lit où elles dormaient toutes ensemble, il y avait un autre lit, exactement semblable, où la femme de l'ogre avait mis coucher les sept garçons. Le petit Poucet, qui craignait le retour de l'ogre et cherchait un moyen de lui échapper, s'aperçut que des couronnes d'or reposaient sur la tête des petites ogresses, tandis que ses frères et lui-même portaient des bonnets en laine. Se levant sans bruit, il prit doucement les sept couronnes qu'il posa sur la tête de ses frères et sur la sienne, puis il coiffa les petites ogresses des sept bonnets de laine et retourna se coucher. Au milieu de la nuit, l'ogre entra dans la chambre. Il s'approcha du lit où dormaient les garçons, tâtonna et sentit les couronnes d'or.
Par ma barbe, mais c'est le lit de mes filles. J'allais faire du bel ouvrage. Les petits gaillards sont donc dans l'autre lit. Voyons un peu. Je sens leur bonnet de laine. Il n'y a plus de doute. Cette fois-ci, je les tiens.
Quand l'ogre sortit de la chambre un peu plus tard, le petit Poucet réveilla ses frères. Les fit s'habiller en hâte et leur dit de le suivre. Ils se glissèrent doucement dans le jardin, sautèrent par-dessus le mur et s'enfuirent dans la nuit en courant à toutes jambes. Le lendemain matin, en entrant dans la chambre de ses filles, la femme de l'ogre poussa un grand cri qui fit accourir son mari.
Pourquoi as-tu crié, femme ?
Misérable ! Regarde ce que tu as fait à nos petites filles !
Oh ! Oh ! C'est la faute de ces sept petits gredins. Ils me le paieront.
Donne-moi mes bottes de 7 lieues que je les rattrape sur l'heure.
Le petit poucet et ses frères ne se trouvaient qu'à 200 pas du logis paternel quand ils virent apparaître l'ogre. Il fouillait la campagne à droite, à gauche, allait en avant, revenait sur ses pas, traversait de larges rivières aussi aisément que de simples ruisseaux et franchissait d'une seule enjambée les sommets des plus hautes montagnes. Vers midi, comme il faisait très chaud, il alla s'asseoir sur un rocher sans se douter que les enfants se cachaient tout près. Bientôt accablé de fatigue, il s'endormit profondément. Tandis que ses frères regagnaient en hâte la maison de leurs parents, le petit poucet s'approcha doucement de l'ogre et lui enleva ses bottes de 7 lieues, qu'il chaussa aussitôt. Puis, comme il savait que le roi de ce pays se trouvait fort en peine d'une armée qui combattait à 200 lieues de là, il se rendit au palais royal.
Sire, votre majesté veut-elle savoir si son armée a battu l'ennemi ?
Je donnerais beaucoup pour en être informé, mais pourquoi me demandes-tu cela, mon enfant ?
Si votre majesté le désire, je lui apporterai des nouvelles de la bataille avant la fin de la journée.
Tu me sembles bien présomptueux, mon jeune ami. Mais si tu dis vrai, je te ferai remettre un sac plein de pièces d'or.
Vous pouvez faire préparer le sac, votre majesté ?
Grâce à ses bottes de 7 lieues, le petit poucet rapporta des nouvelles le soir même. L'armée du roi était victorieuse. Le monarque était si content qu'il nomma le petit poucet premier courrier de son royaume et le paya fort cher. Au bout de quelques années, ayant amassé beaucoup d'argent, le petit poucet fit venir sa famille à la cour. Ses frères épousèrent de riches jeunes filles et ses parents vécurent auprès de lui, heureux et comblés, jusqu'à la fin de leur jour.
C'est à mon filleul que je dédicace cette émission. Merci à toi, Nono, pour m'avoir fait écouter ce vinyle du Petit Poucet. Merci aussi pour cette petite soirée où tu as sorti ton plus bel anglais. Thank you, Nono. I've got nothing else to say that you're the man, buddy. Merci à Alex, mon technicien préféré, et merci à vous d'avoir écouté Les Rêves de Lila sur Radio Sainte-Afrique. En attendant de vous retrouver, comme à mon habitude, je vous lance un bon gros ciao.